Je ne me rappelle pas de la dernière fois, mais j'ai l'impression que ce pupitre, il est de plus en plus haut. Donc bonjour à tous. Alors j'aimerais ce matin nous poser une question, parce que je suis aussi, je me mets dans le lot. Comment pouvons-nous bouleverser le monde? Vous avez une idée? Vous avez trop d'idées? J'aime bien cette image, vous savez, quand on a trop d'idées, trop de choses à faire, on sait comme devant la pâtisserie, quand vous êtes là, il y a tellement de gâteaux, vous ne savez pas quoi choisir. Alors il y a tellement de domaines qui nous font des clins d'œil que nous ne savons pas de quel côté nous engager. Alors on s'engage nulle part. On prie, on réfléchit. Ce matin, je voudrais que vous me permettiez d'essayer de vous contaminer avec ma passion. Non, je ne vous parlerai pas des belles Vosgiennes ou des belles Normandes. Mais non. Je voudrais vous parler des enfants. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je suis passionnée par les vaches aussi. Voilà, ceci explique cela. Et donc, je voudrais vous parler des enfants. Et d'abord, qu'est-ce qu'une bonne passion? Parce que si vous l'attrapez, autant que vous sachiez ce que c'est. Donc, j'ai trouvé une définition qui m'a bien plu. Une passion est un désir donné par Dieu dans votre cœur pour faire une différence quelque part. J'ai aimé cette définition parce que je la trouve très positif. Souvent, quand on dit il a une passion, on pense à c'est une connotation parfois négative. Mais voilà. Donc, simplement, une passion est un désir donné par Dieu dans votre cœur pour faire une différence quelque part. Pourquoi les enfants vont-ils battre mon cœur? Je ne sais pas. Je ne sais pas quand ça a commencé, ni comment ça a commencé. Mais quand je vois un enfant, ben voilà, ça me réjouit. Vous voyez, quand je vois le mini-bec qui est là-bas, franchement, je ne regarderai nulle part ailleurs pendant tout le culte, je me contenterai de l'admirer. Et voilà, donc j'ai travaillé professionnellement pendant plus de 45 ans avec des enfants, mais déjà bien avant, dans l'église, j'essayais de piquer les bébés aux mamans pour donner un biberon, pour changer une couche, pour pousser la poussette. Franchement, je ne sais pas comment ça m'est tombé dessus, mais voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, vous avez ici un spécimen, elle n'est pas là ce matin. Notre Lydie. Vous connaissez tous Lydie. Voilà, ben je l'ai tenue dans mes bras, je lui ai changé la couche, je lui ai donné le biberon et je l'ai promenée dans sa poussette. Vous voyez, je ne l'ai pas traumatisée. Alors voyons, un petit peu, quelques points, on ne peut pas tous les énumérer, mais qui sont ces enfants, ces VIP, ces Very Important Person, pardonnez mon accent, pour avoir un tel pouvoir sur nous? Déjà, je dirais que les enfants sont des cadeaux de Dieu. Et je voudrais qu'on soit tous reconnaissants pour nos enfants à nous, mais pour tous les enfants que nous côtoyons, que nous voyons. Et puis, les enfants, ce sont des nouveaux venus. Et quand vous mettez votre doigt à côté de leur main, ils l'attrapent et ça y est, ils ont pris votre cœur. Vous êtes fichus. Ils sont là au fond de leur berceau et puis ça y est, ils vous ont eu. Ce sont aussi des terrains fertiles qui ne demandent qu'à être ensemencés. Et il y aurait plein de choses à dire, mais comme je ne veux pas me fâcher avec mon ami Vito, il est où? Qui doit faire le message après, donc je vais m'arrêter là. Et je voudrais simplement qu'on voit aussi comment Dieu voit les enfants. Alors la Bible est pleine de versets qui parlent d'enfants. J'ai pris 2-3 images. Dieu les voit comme des flèches dans le carquois d'un habile guerrier. Vous trouverez ça dans le psaume 127, versets 4 et 5. On va juste, si vous voulez le noter, mais voilà. Et un habile guerrier, un tireur à l'arc, s'il n'a pas de flèche, il ne va pas faire de prouesse. Je crois que c'est important de réaliser que nos enfants, ce n'est pas juste une étape avant qu'ils deviennent adultes, juste des gens qui nous cassent les pieds, qui grandissent trop vite, il faut acheter des chaussures toutes les saisons, qui trouent leurs pantalons alors que on l'a acheté il y a une semaine. Non, les enfants, Dieu les voit comme des flèches dans les corps d'un habile guerrier. Il les voit aussi comme des êtres humains à part entière pour qui Jésus a donné sa vie. Matthieu 19, 14. Souvent, quand on voit les enfants, on les prend pour des quantités négligeables, mais voilà, si vous passez l'étape. Voilà. Alors quand on arrive à l'adolescence, ce qu'on appelle entre guillemets l'âge bête. Voilà. Donc, mais non, les enfants, chaque jour de chaque vie d'enfant est précieuse aux yeux de Dieu. Les enfants sont aussi une couronne pour les papy-mamies. Vous trouvez ça dans Proverbe 17, 16. Alors si vos enfants sont adultes, et qu'ils vous ont donné à leur tour des enfants, eh bien, sachez les regarder comme une couronne pour vous. Et pas pour les prédateurs qui viennent vider votre congélateur les week-ends et pendant les vacances. Et les enfants sont aussi les héritiers des promesses divines, au même titre que nous. Vous trouvez ça dans Actes 2.39, pour vous et pour vos enfants. Les promesses sont, je ne sais plus comment c'est dit, mais c'est quelque chose dans ce genre. Donc, pour Dieu, les enfants sont précieux et il veut le meilleur pour eux. Alors, nous, que faisons-nous pour eux ? Alors, quand je lis, j'aime bien l'Ancien Testament parce qu'il y a plein d'histoires passionnantes, d'histoires magnifiques. Donc, quand je lis les récits bibliques, je me réjouis de voir les fruits de l'éducation de certains parents dans la vie de leurs enfants. Bon, on va en prendre que deux exemples, autrement, Vito va me faire les yeux, le regard qui tue, les yeux revolvers, parce que j'aurais pris trop le temps. Donc, on va parler de Anne et Elkana, enfin, parler, non, citer juste Anne et Elkana avec Samuel. Quel exemple magnifique. Vous vous rendez compte, cet enfant qu'elle a tant désiré, ben, elle l'a consacré à l'Éternel. Elle a permis qu'il rentre dans sa destinée et qu'il change la destinée d'un peuple. Quand on voit Loïs et Eunice, c'était la mamie et la maman de Timothée, il a été éduqué, son père était grec, donc il devait y avoir pas mal de philosophie dans cette famille. Les Grecs sont très... Mais le côté chrétien de papa, et de mamie et maman, ont fait pencher la balance. Et il y en a d'autres, quand vous voyez David et Salomon. Comment David l'a préparé pour construire le temple de l'Éternel. Vraiment, les enfants, c'est des valeurs sûres en qui nous devons nous investir. Nous devons les accompagner dans leur découverte de la foi et nous mettre à leur portée pour leur présenter Dieu qui les aime. Vous savez, quand on a ouvert l'école Timothée à Fontenay, les maîtresses de maternelle, elles faisaient chanter des chants de grands. Et puis, un jour, elles faisaient chanter « Jésus est roi, il est roi ». Et puis, à un moment donné, il a fait monter sa bannière. Et il y a un gamin qui a chanté, un petit de maternelle, « Fait monter sa bagnole ». Parce qu'une bannière, il ne sait pas ce que c'est, mais une bagnole, il savait. Donc, nous devons nous mettre à la portée des enfants. Les enfants ne peuvent pas comprendre comme nous comprenons. Donc voilà, nous devons nous mettre à leur portée pour leur présenter un Dieu qui les aime. Moi, mon désir, c'était que tous les enfants que j'ai côtoyés, soit à l'école du dimanche, soit à l'école chrétienne, c'est qu'ils aient envie d'avoir le même Dieu que moi. Pas dire c'est le Dieu de la maîtresse, c'est le Dieu de papa et maman, mais c'est mon Dieu. Et que ça soit, que ma vie leur fasse envie. Et je crois que c'est notre... Dieu nous demande ça à tous. Et voilà, comment nous investir dans cette mission ? Alors, j'aime bien l'histoire de Genèse 33. Vous savez, Ésaü et Jacob, ils avaient eu quelques mots ensemble, quelques différends. Et Jacob, très courageux, avait pris la fuite. Il était allé chez tonton et tata. Et puis, au bout de je ne sais combien d'années, il avait fait 12 petits déjà. Et voilà qu'il a eu envie de revenir voir papa et maman. Et donc, le voilà de retour. Mais il y avait quand même l'ombre de son frère. Il lui avait joué un tour un peu, je dirais pas un tour un peu vache, parce que j'aime pas. Mais un tour un peu belette, parce que les belettes, je ne les connais pas. Voilà. Donc, le voilà revenu, et puis, à l'approche du pays, il commence à prendre la trouille. Et puis, finalement, tout se passe bien, Ésaü arrive, il se rencontre, à mon frère, voilà. Et puis, Ésaü lui dit, allez, viens. C'est quoi ça ? Ce sont mes enfants, mes épouses, mes troupeaux. Il dit, allez, laisse les bonnes femmes s'occuper des enfants, laisse les bergers s'occuper des troupeaux, et toi, viens avec moi, on va faire la fête à la maison. Et voici ce que Jacob a répondu. Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches, c'était quelqu'un de bien ce gars, qui allaitent. Si on forçait leur marche, un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. Je suivrai au pas du troupeau. Bon, c'est une parenthèse, on n'a pas forcément de troupeau ici, mais au pas des enfants. Et je voudrais tellement qu'on puisse être touché par ça. Nous devons apprendre à marcher au pas des enfants. Alors les enfants ne peuvent pas marcher à la même vitesse que nous, ça me fait toujours mal quand je vois quelqu'un marcher dans la rue entraînant un petit bonhomme, une petite bonne femme qui est obligée de... Il touche à peine le sol, hein, parce qu'il faut qu'il marche au pas de papa et maman. Non. Je ne sais pas si vous avez, si M. Pythagore fait partie de votre liste d'amis. Moi, je ne l'ai pas mis dans ma liste d'amis sur Facebook parce que je trouvais que c'était un tortionnaire pour enfants. Vous savez, avec son histoire, alors c'est comment ? Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés dans un triangle rectangle. Je trouvais que, franchement, les pauvres gamins avec ça, il fallait qu'ils apprennent ça par cœur, ils le comprenaient ou ils ne le comprenaient pas. Mais dernièrement, je me suis réconciliée avec M. Pythagore. Parce que j'ai lu une phrase qu'il a écrite, et il a dit ceci: un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. Ça, c'est beau. Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. Et je voudrais terminer par deux versets. Enfin, un verset. Matthieu 25, 40, on les connaît tous, on les dit, on les redit, on les connaît, on peut les réciter, mais je voudrais qu'on les vive. Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Toutes les fois où vous occupez des enfants, toutes les fois où vous penchez sur un enfant, où vous prenez sa main, où vous lui expliquez quelque chose qu'il ne comprend pas, où vous priez avec lui, Dieu dit, c'est comme si vous me le faisiez à moi. Ça, c'est un honneur. Hein. Alors, Dieu cherche des Jacob qui accepteront de marcher au pas des enfants et de se mettre à leur portée pour les guider vers leur destinée. Alors, ce que je voudrais ce matin, au travers de ces quelques mots, c'est que vous ayez tous envie. Alors, les messieurs sont aussi bienvenus dans les départements enfants. Souvent, on dit, c'est les dames qui doivent s'occuper des enfants. Mais pourquoi ? Les grands frères, les papas ont aussi leur place dans le département enfant. Évidemment, vous avez compris que je cherche à vous enrôler dans un truc. Hein. Ce n'est pas gratuit, mon discours. Non, on veut mettre en place vraiment un encadrement pour les enfants, pour la rentrée. Et je voudrais que vraiment chacun de vous se pose la question. Est-ce que, Seigneur, tu veux que je participe à cela ? Et qu'il pose la question au Seigneur pour savoir ce que Dieu attend de lui ou d'elle par rapport au service parmi nos enfants. Vous savez, nous sommes la famille Josué, et comme notre lointain prédécesseur, nous voulons dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous et nos enfants, nous servirons l'Éternel. Donc vraiment, je vous invite à réfléchir. Je voudrais qu'on puisse mettre en place des binômes, si on pouvait en avoir trois ou quatre, où chacun pourra apporter sa couleur d'onction aux enfants. On ne va pas vous obliger à rentrer dans quelque chose qui ne vous ressemble pas, mais que les enfants puissent être bénis au travers des bannières, au travers de la louange, au travers du bricolage, au travers tout ça en faisant passer l'amour de Dieu. Et je voudrais vraiment que vous puissiez vous demander, est-ce que tu m'appelles là, Seigneur, une fois par mois ? Et puis voilà, donc si vraiment vous sentez que Dieu a touché votre cœur, eh bien, venez me voir pour qu'on puisse mettre en place une équipe. Et si vous ne venez pas me voir, moi j'irai vous voir et je vous désignerai volontaire.
Merci Mathé. Merci. Et je crois que ce qui est sécurisant, c'est que Mathé est là pour donner le cadre, pour aider. Et cet engagement, ce n'est pas larguer tout seul, c'est larguer avec quelqu'un qui est un vis-à-vis, qui accompagne. Donc c'est vraiment, c'est du gâteau. Et je pense que moi-même, jeune chrétien, pendant 7 ans, j'ai organisé toute une école du dimanche, c'était une église à Mulhouse, et j'ai beaucoup, beaucoup appris dans la foi, dans la Bible, et avec ce contact avec les enfants. Et je pense que ça a été un tremplin où Dieu m'attendait pour aller plus loin. Et si on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous conduit dans les grandes. Donc voilà, Vito, à toi la parole. Tu viens armé avec ta bouteille, tu fais bien. Voilà, voilà. Merci.
Alléluia. Ok. Un, deux, est-ce qu'on m'entend? Ok. Je vais juste au niveau du son, je sais que ma voix est basse. C'est pour ça que s'il y a besoin de la régler, c'est le moment. Ok. Voilà, j'ai de la longueur. Alléluia. La première chose, c'est d'avoir envie de marcher pendant que je suis en train de parler. Ne vous... Restez pas assis. Moi, vous avez vu, je marche beaucoup. Je crois au mouvement, je crois à la danse. Et je crois qu'on apprend aussi quand on marche, quelque part, notre corps est en action. Et d'ailleurs, quand je prie en général, rester assis, c'est juste impossible. Ça m'arrive. C'est pas impossible, impossible, parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais en général, mon corps fait partie de mon processus d'apprentissage. Et je crois pas être le seul. Donc si vous avez envie de marcher, sans faire de bruit, sans discuter, soyez, sentez-vous libre. Parce qu'en plus, quand il fait chaud, restez assis sur une chaise. Je vous invite à marcher. Alléluia. Alana, c'était chouette ce que tu as fait tout à l'heure. Je t'ai vu, mais qu'est-ce, pourquoi tu plies le tissu? Et tout d'un coup, c'était une évidence. Tu es en train de plier un tissu, c'est comme une cape des Indiens que tu avais. Et je t'ai vu danser comme un... Et j'ai vu à ce moment-là quelque chose se briser dans la terre. Il y a quelque chose, Dieu t'attend, il y a une réjouissance parce, et en même temps une fête. Parce que tu as commencé quelque chose pour toi et pour ta nation. C'était juste, c'était pas long, mais j'ai juste vu ça, j'ai dit, oh yes, c'était beau. Merci, vraiment merci. Alléluia. Ah. Ouais, Tania, c'est toi. Hein. Tout à l'heure, vraiment, j'ai aussi vu que Dieu t'avait mis un manteau d'honneur et de gloire sur ta tête, et quelque chose de beau, de paisible, et tu avances tranquillement. Et l'honneur que tu donnes à Dieu et aux autres, Dieu te le redonne. C'était beau. Ok. Donc, il y a quelques semaines de ça, je me suis proposé pour parler ce week-end. Parce que c'est quelque chose qui brûle dans mon cœur depuis quelques temps. Et je pense qu'on aura une deuxième étape, un beau jour, comme pour la danse. C'était tout ce qui était création artistique, prophétique, dans le dessin, genre de choses. C'est des choses que je donne au travers de la formation ISP. Je vais quand même faire 30 secondes pour la formation ISP. On a vécu cette année comme étant un vrai miracle, parce que c'était mal parti depuis le début de l'année. Et mois après mois, les échéances, on a pu les franchir et c'est juste magnifique. Merci Seigneur pour ce qu'on a vécu. Des moments difficiles aussi, mais en même temps, la joie de décerner un diplôme à une jeune fille c'était vendredi. Comment exprimer quand on lit la mémoire de quelqu'un qui est arrivé, et on l'a vu arriver, qui était brisé, qui était en rupture des études, qui se sentait incapable, il y avait plein de colère en elle contre un tas de choses. Et 2 ans après, on voit une jeune femme qui est réconciliée avec elle-même, réconciliée avec sa famille, réconciliée avec son appel et les enfants, réconciliée avec Dieu. Et on voit un potentiel qui avait été enfoui sous la cendre être juste dévoilé. On se dit, mais où elle va aller où? Elle n'a que 22 ans, mais quel potentiel. Et c'était quelqu'un qui avait été enfoui sous la cendre. Juste pour ça. Waouh. Merci Seigneur, quel cadeau d'assister à une renaissance. Donc priez pour l'ISP, il faut que cette année, cet été, il faut qu'il y ait un miracle qui se passe. Mais ça va, on a une bonne équipe et on a encore eu un bon temps jeudi en tant que comité profond, dense, mais en même temps, c'est une équipe. Ça, c'est, voilà, ça permet de rester en repos. Bien, alors, donc quand j'ai pensé à cette idée, j'aimerais ça me brûler, il faut vraiment que je parle de ça, ça fait un moment que ça c'est en pression. Et puis, ok, je veux prendre un message prochainement. Et puis, voilà, j'ai mis ça de côté un petit peu. Et puis, je me suis rendu compte que dans les semaines qui ont suivi, Dieu m'a donné 2-3 petites choses en plus qui n'étaient pas dedans au départ. Donc, je vais essayer de parler de la construction d'éléments matériels, de la création, de la créativité. Donc, il y a une dimension culturelle d'unité, il y aura une dimension sociologique et politique, et puis il y aura une dimension économique. Et je ne sais pas si je vais arriver au bout de tout ça. Bien. Première des choses, ça c'est pareil, c'est au cours de mes cours avec l'ISP, il y a un de mes étudiants qui m'a donné cette année le retour. Et je vais essayer de trouver des endroits où, quelque part, la créativité artistique était présente dans la Bible, il y en a plein. Et puis il m'a sorti la création d'Adam et Ève. Un petit peu... attends, explique-moi. Ben oui, Dieu a modelé l'argile comme un sculpteur. Et juste le fait de le voir, de comprendre que Dieu nous a modelés avec ses mains, il nous a formés. Ce n'est pas juste qu'il a prononcé. Nous sommes son ouvrage. C'est juste incroyable de voir que Dieu a pris le temps, comme un sculpteur, de nous former, de mettre le nez, la bouche, les oreilles. C'est juste. Et après, il a dit, waouh, c'est tellement beau. Je vais mettre mon esprit là-dedans. C'était juste magnifique. Je pense qu'il a prévu à l'avance, mais je ne crois pas que Dieu, quand il a vu ça, il dit, oh, non, franchement, toutes les galères qui vont arriver, il les a vues. Mais il y a cette qualité de Dieu qui a créé de ses mains. Et je ne sais pas si vous pouvez vous sentir en ce moment même être modelé par Dieu. Moi, oui. Alors, je vais faire un raccourci de plein de choses. Hein. Donc, désolé si c'est incomplet, si c'est des patous, si. Voilà. Un jour, on fera une journée là-dessus et puis on pourra parler plus en profondeur. La démencée, dimension de créativité, on la retrouve dans plusieurs passages, j'en ai choisi en gros deux, trois. Le premier, c'est au moment de la création du tabernacle. Les 10 commandements, on en parle beaucoup et c'est hyper important. Combien de versets il y a dessus? Combien de passages bibliques en parlent? En gros, ça fait un chapitre. Exode 20, 1 à 20. Ou Exode 10, 1 à 20, je ne sais plus. Combien il y a de versets sur la création du tabernacle? Combien de chapitres? Beaucoup. Et il se dit, mais ce Dieu-là, qui a tellement à cœur les âmes, va prendre 5-6 chapitres de son livre, la Bible, pour nous parler de tous les ustensiles, pour nous parler de comment faire des poteaux et puis des trucs en argent, comment faire des tentes, comment tisser des tissus, comment faire un chandelier, comment. Et c'est juste incroyable de voir le détail que Dieu va donner pour cette création-là. Et je vous invite simplement à relire ces chapitres, parce que là on n'a vraiment pas le temps. Exode 25 à 31, si vous le désirez, c'est tout le tabernacle. Et puis, il y a du boulot à faire. Et moi j'aime bien ce qui vient après, Exode 31. L'Éternel parla à Moïse, disant, « Regarde, j'ai appelé par nom Bétsaël, fils d'Uri, fils d'Ur, la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, en sagesse et en intelligence et en connaissance, pour toutes sortes d'ouvrages, pour faire des inventions, pour travailler en or et en argent et en airain, pour tailler des pierres à enchâsser, pour tailler le bois afin d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, j'ai donné avec lui Oholiab, fils d'Akisamac, de la tribu de Dan, et j'ai mis de la sagesse dans le cœur de tout homme intelligent, afin qu'il fasse tout ce que je t'ai commandé. » Et là, on a de nouveau toute la liste de ce qu'il faut faire. Pourquoi Dieu les a remplis d'esprit et d'intelligence? Pour faire toutes sortes d'ouvrages. Et des ouvrages qui étaient artistiques. Est-ce qu'il y a des gens comme ça au milieu de nous qui sont capables de faire toutes sortes d'ouvrages, de constructions? Il y en a tout plein. Parfois on ne les voit pas. Juste par exemple, quand on voit Patrick travaillait dans le chantier, ou Heinz, ou Jean-Marc, ou d'autres. Est-ce que c'est juste quelqu'un qui vient finaliser un truc, ou c'est quelqu'un que Dieu a rempli de sagesse, d'intelligence, de son esprit, pour faire toutes sortes d'ouvrages? Ouvrons nos yeux. Pour le tabernacle, il a fallu des gens qui se retroussent les manches, et se salissent les mains. Il a fallu tailler le bois. Et ça a été long parce qu'ils n'avaient pas la petite scie portative électrique. Ils avaient dû prendre des haches, des scies. Il a fallu tailler. Ils avaient récolté entre eux de l'or et de l'argent, mais il a fallu le fondre. En plein désert, il faut faire un feu pour faire fondre du matériel. Déjà là, quand on voit ce qu'il fait avec 40 degrés à l'ombre, c'est sympa. Mais imaginez, en plein désert, faire du feu. Déjà, je ne sais pas où ils vont chercher le bois. On se rappelle que les rudiments de métallurgie de l'époque Eh ben, c'est pas simple. Et ils vont faire fondre de l'argent, de l'or. Ils vont tailler, ils vont chercher du bois. Rien que donc, il faut des bûcherons. Quels sont tous les corps de métier que l'on voit apparaître dans ce corps tabernacle? Bon, bûcheron, j'ai déjà pas trop parlé. Je vous ai posé la question, mais du coup, j'ai commencé. Désolé. Il y a des bûcherons. Il y a quoi encore? Métallurgiste. Charpentier. Orfèvre. Couturier. Designer. Tailleur. Menuisier. Plus fort parce que du coup j'ai le mal à entendre parfois. Manager d'équipe. Continuons. Tailleur de pierre. Les cuisiniers pour faire à manger qui manquaient. Teinturier. Trésorier comptable. Peintre. Peintre. Tisseur. Je ne sais pas ce qu'il a fallu au cours d'autre, mais il y a, c'est juste incroyable tous les corps de métier qu'il a fallu pour arriver à ce que cette magnifique enceinte et lieu soit terminée. Et du coup, quand j'ai parlé tout à l'heure de dimension sociologique et politique, je pense que vous commencez à voir où c'est que je vais peut-être arriver tout à l'heure. Moi, en tout cas, ça a commencé à faire... Les parfums. Il fallait des gens qui sachent faire des parfums. Il fallait faire de l'huile. Mais dites-moi, tout ça, c'est... on n'est pas en train de sauver des gens, on est en train de rien faire. Et je reconnais que, en tant qu'ancien catholique, j'étais un peu iconoclaste à mes débuts. Alors c'est vrai qu'on est sorti d'un endroit où les bâtiments avaient été tellement mis en avant que c'était l'Église, qu'on avait compris que c'était une fausse compréhension, que du coup, d'une certaine manière, j'avais rejeté plein de choses inconsciemment. Non, l'Église, c'est pas ça. Et les bâtiments, c'est pas ça. Les teintures, c'est pas ça. Et puis il y avait quand même parfois de l'abus avec des trucs d'or alors que les gens étaient en train de mourir de faim. Donc c'est pas ça. Mais en même temps, en faisant ça, quelque part, j'ai rejeté toute une partie de ce que Dieu voulait donner. Les orfèvres, tout à fait, tailleurs de pierres, ceux qui vont chercher ces pierres. Faut trouver les émeraudes. Oui, en passant, il faut des éleveurs pour avoir de la laine, pour pouvoir tisser les tissus. Il y avait des peaux de bêtes qui étaient au-dessus, alors là, qui parlent de dauphins, d'autres choses, mais peu importe. Il a fallu des gens pour aller chercher ces trucs-là, des chasseurs. Des tanneurs, mais c'est pas simple. Et tout ça a pris en gros une année. C'est déjà pas mal, mais je trouve que tout un peuple qui construit ce truc-là, c'est en gros toute une année. Je vais pas faire tout le détail parce que je n'aurai pas le temps. Et puis, Exode 40, le premier jour du premier mois de la seconde année. Alors parce que je rappelle qu'ils sont sortis d'Égypte au moment de la première année. Moïse va dresser le tabernacle, il en posa les bases, il monte tout comme Dieu avait ordonné, il va placer l'arche, il va poser les pains, les chandeliers, il va ranger les lampes, il va faire brûler le parfum. Donc, il va tout placer, c'est magnifique. Et au verset 33, il est dit que Dieu, que Moïse acheva toute la mise en place. Quelle est la conséquence de ce travail mécanique, manuel, artistique, d'ingénierie, d'équipe? Verset 34. Alors la nuée couvrit la tente et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente parce que la nuée restait dessus, que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Tout à l'heure, on a dit quand on fait des petites choses, quand on est fidèle, alors Dieu nous donne des plus grandes. Et par rapport à nous, je pense que Dieu nous attend dans cette finition. Pas parce qu'on est obligé de le faire. Et pendant longtemps, dans ma vision, un bâtiment était comme un mal nécessaire. Parce que l'église, c'est quand même pas un bâtiment. Et j'ai basculé du mal nécessaire à un lieu où Dieu nous attend pour remplir ce lieu de sa présence. Ce n'est pas forcément dire qu'il y aura 10 000 conversions qui vont arriver. Mais quand on respecte ce que Dieu nous donne, alors, quelque part, Dieu va nous remplir ce lieu. Comme tout à l'heure, le papa qui dit, mais je vous attendais là, vous n'étiez pas là, au niveau des dîmes et des offrandes. Faites ça. Et c'était un cœur de père qui disait, mais où est l'honneur qui m'est dû? Ouais, ça va être compliqué de finir, je suis que la page 2. J'ai essayé d'élaguer, mais tant pis. Deuxième étape, beaucoup plus tard, où je suis rebondi sur une autre construction. David, qui avait fait venir l'arche dans cette tente, je rappelle qu'il avait transgressé plein de choses en faisant ça. Et puis là, il est dans la nuit, il a juste fini de ramener l'arche dans la tente de David, il a mis les chantres en place, et là il dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Dieu, moi j'habite dans un palais, et toi, tu as juste une tente. Et il avait cette idée de... Et on a cet échange avec Dieu qui dit, écoute, non, je n'ai pas voulu ça. Mais il agrée le désir de David, il agrée son cœur. Et bien plus tard, on va sauter, il est dit, c'est surprenant parce que l'idée vient de David. Je me pose la question si l'idée n'était pas de Dieu dans David, ça peu importe. Il est dit à un moment donné dans 1 Chronique 28, il va donner à Salomon le modèle du portique de sa maison, tout ça, et au verset 12, 1 Chronique 28, et le modèle de tout ce qu'il avait par l'esprit. Intéressant. Un peu plus loin, verset 19, tout cela, dit David, tout l'œuvre du modèle, il m'en a par écrit donné l'intelligence par la main de l'Éternel sur moi. De nouveau, on retrouve une histoire où quelqu'un va dépenser une énergie absolument incroyable pour des bâtiments, pour quelque chose qui est artistique. Il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a d'autres choses, un peu plus grand. Et Dieu va s'investir là-dedans de manière absolument incroyable. Et puis, en Chronique 29, avant la construction du temple, j'aime bien quand même de David qui parle de son fils. En Chronique 29, au verset 1. Et le roi David dit à toute la congrégation, « Salomon, mon fils, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et délicat. Et l'ouvrage est grand, car ce palais n'est point pour un homme, mais pour l'Éternel. » C'est intéressant, je me dis de Salomon, « Non, papa, ne dis pas ça. » Et voilà, mon fils, il est jeune et délicat. C'est je trouve intéressant comme constat de présentation. David reconnaissait que son fils avait encore besoin de grandir, d'aller de l'avant. Et il va mettre de sa poche des milliers de talents d'or, d'argent. C'est tout dans Chronique 22. Quand on regarde l'énergie et l'argent qui a été mis, c'est juste incroyable. Et cette énergie mise en avant va faire en sorte que derrière, plein d'autres personnes vont donner. Et ils vont se réjouir de ce qu'ils avaient donné volontairement. C'est intéressant. En général, tu te réjouis de quelque chose. Et là, ils se réjouissent parce qu'ils ont donné volontairement. Ils sont tout contents, ouais, on l'a fait. Et David a eu une grande joie, il savait juste incroyable. On saute dans le temps. Et là, de nouveau, on prend tout un tas de chapitres, 2 Chroniques, 2 à 4, on va décrire tous les éléments. Donc rien que là, sur ces deux constructions-là, on a une dizaine de chapitres de ce livre tellement précieux qui parle juste de construction. Et chapitre 5 à 8, c'est la description de l'élévation de ce tabernacle. Ah. Je suis en train d'oublier quelque chose, non, c'est bien. Et qu'est-ce qui se passe une fois que tout est fini? On rassemble tout le monde, on va ramener l'arche. Donc comme la dernière fois, on va mettre en place toute chose comme Dieu en avait donné dans le modèle. Et vous savez, quand Dieu donne un modèle et qu'on accomplit ce qu'il nous demande, il se passe un truc. La première des choses, c'est que ce travail commun a amené une célébration commune. une unité juste incroyable. Ils chantaient, ils dansaient d'un même cœur. Et tous ensemble, au verset 13 de 2 Chroniques 5, il est dit à un moment donné, verset 13, « Ils arrivèrent à ce que les trompettes et les chants furent comme un seul homme pour faire entendre une même voix. » En louant et célébrant l'Éternel, qu'ils élevaient la voix avec les trompettes, les cymbales, les instruments de musique en louant, et les sacrificateurs ne pouvaient y tenir pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Parfois, on veut faire un tas de trucs pour la gloire de Dieu, on n'a rien à faire. Il faut juste faire ce qu'il nous demande de faire. Et parfois, ça passe par finaliser quelque chose auquel nous nous attendons. Je trouve juste incroyable, il n'était pas en train de vouloir convertir des gens, mais il y a une effusion de l'esprit juste dans une construction. Et je crois que vous tous, Jocelyne disait tout à l'heure, chacun de vous a une bénédiction. Chacun de vous, il y a l'esprit de Dieu. Dans chacun de vous, il y a cette capacité à créer. Et il y a des corps de métiers différents, avec des talents différents, mais à un seul peuple. Alléluia. Je vais filer sur tout ça, parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Intéressant, le psaume 36, tout à l'heure. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Je crois que tout ce qu'on est en train de faire au niveau artistique, mais aussi dans ces bâtiments, est un moyen de libérer la lumière. C'est un moyen de libérer la lumière. Je me réjouis de ce que dans la fête de la musique, certains avaient commencé à dessiner. Merci Carlo d'avoir embrigadé cette belle équipe avec Benjamin et Lucas. Merci, parce que ça a été quelque chose qui a commencé. Et je suis sûr que ça a réjoui le cœur de plusieurs en ville. Et ça posait des questions. Comment démontrer que Dieu n'est pas un Dieu ? L'art ? L'art est un langage que tout le monde arrive à comprendre, qui dépasse notre cerveau, qui nous touche notre cœur. Et d'un coup, ça fait oh, « c'est beau !» Et quand c'est beau, on va louer le Créateur. Je ne crois pas que la beauté vienne de nous. Mais tout ça, on en reparlera quand on fera une journée sur tout ce qui est création artistique. Parce que là, du coup, sinon, je vous garde toute l'après-midi. Et ce n'est pas le jour. Donc, gardez juste ça. Tout ce qui est beau se retrouve dans la Bible. La création artistique se retrouve dans la Bible. Et plein d'artistes ont juste développé ce que Dieu leur a donné. Et je crois qu'on est appelé à ça. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de cette dimension sociologique et politique qui s'est créé autour de ça. Dans ces deux éléments, de ces moments, autour d'une construction, Dieu va faire rentrer les gens dans un autre paradigme, dans une autre dimension. Vous vous rappelez, quand ils sont sortis d'Égypte, quel était leur état avant ? Esclaves. Est-ce qu'ils avaient une forme de structure entre eux, probablement. Les tribus existaient déjà et les corps de métier existaient déjà. Donc il y avait une forme de structure. Mais, et je pense que d'une certaine manière, les Égyptiens leur donnaient une forme de gouvernement local, mais pas trop quand même. Hein. Pourquoi ? Parce que, un, ils étaient au même endroit, donc ils n'allaient pas mettre les mains là-dedans. Et de toute manière, les grandes décisions ultimes, ce n'est pas eux qui devaient les prendre, ils étaient esclaves. Et peut-être que ce n'était pas comme ça au départ, quand ils sont arrivés en Égypte, mais au fur et à mesure, on a réduit leur liberté, leur liberté, leur liberté, leur liberté. C'est qu'on rappelle l'histoire de la grenouille pour la faire mourir dans l'eau, et puis on chauffe tranquillement, et puis on va... C'est intéressant parce qu'on voit aussi ce processus de réduction de liberté en ce moment, de plein de choses. Mais voilà, ils sont sortis. Un gros tas. Si vous regardez Astérix et Obélix, c'est un peu comme ça qu'ils sont sortis. Et après ? C'est moi le chef, non c'est moi. D'ailleurs ça commence assez rapidement. Ils ont commencé à râler avec Moïse parce qu'il disait par là et puis mais t'es qui toi ? Mais la construction du tabernacle à commencer à leur donner des objectifs communs. Et les corps de métier ont dû s'arranger, le peuple a dû s'arranger. Donc ils ont passé plein de choses avant, mais je ne vais pas là-dedans. Et après, derrière, qu'est-ce qui se passe? Dieu leur dit, dans Nombre 2, donc le premier jour du second mois de la seconde année, donc c'était juste un mois après la construction, la mise en place du tabernacle, il dit voilà, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de sa maison, et camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Donc le centre du campement, ce n'est plus X, Y ou Z, c'est cette tente. À l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière, avec ses corps d'armée. Là camperont les princes et fils de Juda. Et je vous fais grâce de toute la lecture. À midi, c'est-à-dire au sud, le camp de Ruben, blablabla, avec son corps d'armée. Et c'est intéressant parce qu'on parle déjà de la marche, verset 17. Ensuite partira la tente d'assignation avec le camp des Lévites, placé au milieu des autres camps. Et suivront dans la marche dans laquelle ils auront campé, chacun dans son rang. À l'occident, l'ouest, c'est le camp d'Éphraïm avec sa bannière et tout ça. Au nord, le camp de Dan. Ouais, mais moi, j'ai planté ma tente là-bas. Non, non, tu vas au nord. Mais je vais aller au sud, j'ai mes potes là-bas. Non, non, tu vas au nord. Et chacun commence à trouver sa place. Comment d'un élément structurel, technique et matériel, Dieu est en train de mettre en place une architecture, une construction, un gouvernement. D'ailleurs, c'est intéressant, qui partait en premier? Juda. On se rappelle que le sceptre du commandement ne s'éloignera pas de Juda. Et je pense que ça a servi, ils ont commencé à rentrer dans une autre organisation. Là où il n'y avait pas d'armée, il y a eu une armée. Parce que là, c'est pareil, ils étaient esclaves. On te donne le droit d'avoir ta propre police ou d'avoir ta propre armée quand tu es esclave. Donc tout ça, ça a dû être construit. Le gouvernement a été mis en place. Et ça s'est fait là autour. Soit en passant, vous rappelez un Chronique 20, à un moment donné, il y a Josaphat qui a un souci, puis il prie, et puis il dit qu'est-ce qu'on met en premier dans la marche? On a mis les louangeurs, les chantres. Et en fait, entre guillemets, j'avais dit, ils respectaient l'ordre que Dieu avait donné au départ. Qui devait marcher en premier? Judas, la louange. Soit en passant aussi, quand tu vas faire la guerre, parce qu'au début, ils allaient faire une bataille, tu as forcément envie d'être en premier. C'est sympa d'être au milieu de la troupe, parce que quand tu es devant, qu'est-ce que tu risques d'arriver face à toi en premier? Et en plus, on te donne les trompettes et tu danses. Et à mon avis, ils devaient chanter avec une certaine ferveur. Hein, et danser avec une certaine ferveur, parce que il faut que ça marche. Alléluia, Seigneur, tu es bon, ta miséricorde irait toujours pour moi, j'ai pas envie de mourir. Je crois que là, tu y vas de tout ton cœur. Si jamais tu chantais pas avant tout ton cœur et tu dansais pas, là, tu... yes. Et puis à la fin, tu vois Dieu qui met dans la buscade, là, tu... Oui, Seigneur, ta miséricorde pour moi durera toujours. Je pense qu'il y avait un cri de délivrance qui était là, qui était juste magnifique. Parce que parfois, finalement, dans l'église, c'est facile, on met les chants en premier, mais c'était pas aseptisé, ils allaient à la guerre. Et il valait mieux que ça fonctionne, parce que quand tu es en tête... En général, c'est le corps d'armée en tête qui prend les premières lances. Là, l'équipe en face, ça peut être préparé, ils ont les lances, les flèches. Moi, je ne suis pas forcément d'accord pour partir en premier. Hein. Donc, ça veut dire aussi que dans la louange ici, quand ceux qui partent en premier doivent s'attendre à la guerre. Et pas juste à être, ça peut être que être sympa, c'est le gouvernement. Mais donc, voilà. Et tout ça, il y a une nouvelle politique, il y a un système du fiscal, il y a du troc. Tout à l'heure, on a parlé de, quelqu'un a dit du... un trésorier, tout ça il a fallu le mettre en place et ça restait. Et puis même après qu'ils ont commencé à entrer dans la terre promise, vous vous rappelez, en plus ils mangeaient la manne, mais après ils sont entrés dans la terre promise et là encore c'est un temps de guerre, on n'a pas le temps de tout mettre en place. Et puis finalement ils ont eu la conquête, on commence à mettre les agriculteurs, on commence à mettre les éleveurs, les constructeurs. Donc il y a un changement, et je pourrais refaire la même chose au niveau du tabernacle, du temple de Salomon. Quel a été le mandat de David pendant toute sa vie, en gros ? Faire la guerre. Ça a été un temps de conquête, éloigner les ennemis. Le mandat de Salomon n'était plus du tout le même. Et la bascule a pris au moment de la construction de ce temple. On est passé d'un gouvernement presque martial à cause de la guerre, à un gouvernement qui est davantage tourné vers la politique et l'économie et les relations avec les autres. Et la dimension économique. Donc j'arrive presque au bout. Merci pour votre patience. C'est intéressant de voir comment est-ce que, avec ce tabernacle, avec ce temple, on n'est plus pas dans le tabernacle, Salomon introduit un nouveau temps. Il est dit au verset dans 2 Chroniques 1, « Le roi rendit l'or, l'argent et l'or aussi communs à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi communs que les sycomores. » C'était juste incroyable de voir que ce gars-là a amené une prospérité économique, donc on est sorti de la guerre, et on parle bien d'économie, juste incroyable. Par exemple, en continuant verset 16, et on parlera bien de commerce, c'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane des marchands du roi allait les chercher par troupes à un prix fixe, donc c'était fixé à l'avance, il y avait des mandats. C'est comme aujourd'hui, on fait de la mondialisation, on va chercher les autres dans le truc à l'autre bout du monde. À leur niveau, c'était leur mondialisation. On faisait sortir d'Égypte un cheval pour 600 sicles et un cheval pour 150. Ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Éthiens et pour les rois de Syrie. Rien que là, on peut voir le cheminement des marchandises de Jérusalem ou de l'or qui partait vers l'Égypte, qui revenait vers eux et qui allait vers la Syrie et les Éthiens. Mais ils étaient en guerre il n'y a pas si longtemps que ça. Et comment est-ce qu'on est en train de changer de paradigme ? Et 2 Chroniques 2, à la suite, donc Dieu va, Salomon va ordonner, et puis, et une maison royale pour lui, c'est sympa, il s'est construit, il a fait deux choses. Il va compter 70 000 hommes pour faire porter les fardeaux, donc il va mettre, comment est-ce qu'on appelle ça quand dans une nation on décrète des grands travaux, c'est ça, c'est des grands travaux. On va construire un grand truc, et c'est l'État qui paye. Et ça fait tourner la machine, le moteur économique. C'est une relance économique qui est en train de se mettre en place. Et on va parler de tout ça. Et puis à un moment donné, il va envoyer un courrier. Et là, on retrouve cette dimension politique et sociale et économique avec une nation qui est juste à côté. Blablabla, où c'est que c'est marqué ça ? Salomon envoya à dire à Huram, roi de Tyr. Et je raccourcis parce que pour aller vite, c'est au chapitre de Chronique 2. La maison que je vais bâtir doit être grande. Il parle du Dieu qui est plus grand que tous les autres, il a le pouvoir, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Et qui suis-je moi pour bâtir cette maison, faire brûler des parfums ? Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, étoffe, pourpre, et ainsi de suite. Envoie-moi du Liban, des cèdres, des bois de cèdre, de cyprès, de santal. Voici mes serviteurs seront avec les tiens. Je donnerai à tes serviteurs, on parlera d'une somme d'argent juste incroyable. Et la réponse du roi est intéressante. C'est parce que l'Éternel aime son peuple qui t'a établi roi sur eux. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre et de ce qu'il a donné à David, un fils sage, prudent, intelligent, et ainsi de suite. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent. Vous avez vu comment on est passé de la guerre à des relations où Salomon a honoré un autre roi. Il s'est un peu rendu vulnérable et il s'est un peu humilié, il a dit « j'ai besoin d'aide ». Il a pu dire « oh maintenant, vous dégagez, rien à faire ». Il allait voir les autres, il dit « j'ai besoin d'aide, venez m'aider ». Et le roi va tout lui envoyer, ils vont rentrer en paix et il va y avoir tout un processus. Dieu nous... Ouais, je trouve juste incroyable de voir comment Dieu va faire ça. Et quand c'est dans l'obéissance de ces simples choses, comment Dieu va créer des relations avec les autres nations. Donc, revenons à nos moutons. Bon, j'aime bien les vaches aussi, mais... Dieu veut se servir de ce lieu pour créer des relations, pour créer un moteur économique. Dieu veut se servir de ce lieu pour manifester sa gloire. Et je fais à dessein, pour moi c'est tout aussi spirituel de planter un clou que de chanter. C'est peut-être plus culturel d'être là, mais c'est juste culturel. Et on est amené à célébrer un culte à Dieu. Et encore une fois, je ne vais pas mettre en parallèle l'âme d'une personne parce qu'il faut évangéliser avec un bâtiment. Mais si Dieu nous a demandé de faire de ce bâtiment, alors il faut aller au bout. Parce que Dieu va répondre à son attente. Si c'est lui qui nous a amené ici, est-ce qu'il ne va pas répondre quand on aura fini? Et moi, je crois qu'il y a, je m'attends à une forme de réponse à la fin. Donc on va courir vers cette réponse. On va courir et on va continuer à croire. Parce que je ne crois pas que on est juste appelé à subir ce bâtiment parce qu'il n'est pas fini. Dieu nous attend. Et pardon, Seigneur, pour toutes les fois où on n'a pas compris, où on n'a pas su, où on était pris ailleurs, peu importe. Ou comme moi-même, je disais, mais ouais, c'est... Alors, peut-être pas formulé comme ça, mais quand même, au fond de toi, il y a oui, mais c'est des bâtiments. Voilà, j'aimerais finir là-dessus. Seigneur, viens nous bénir. Tu as donné un zèle incroyable à Salomon, à David, à toutes ces personnes, afin que la maison du trésor ne manque de rien. Et on prie pour que la maison du trésor, les offrandes, se mettent à se multiplier, afin que tout ce qui doit être fait selon tes ordonnances, tout ce qui doit être fait selon ton cœur puisse être réalisé. Comme David a pu... faire ce tabernacle selon Moïse a fait ce tabernacle selon ce que tu lui avais donné. Comme David qui avait préparé de l'or et l'argent à profusion et qui en a encore rajouté ainsi que tout le peuple, afin que cette maison soit comme tu le désirais. Tu as donné ces plans. Seigneur, on croit que ici tu as donné des plans, un mandat, et tu veux construire de ce lieu, afin que la lumière puisse briller et sortir de ces quatre murs. Merci pour là où on en est. Et on veut bénir les prochaines étapes qui vont faire que ce lieu sera davantage encore rempli de ta gloire. Merci pour là où tu es déjà, mais on s'attend à tellement.